flotta en Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans condition.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes, vous êtes sur le plateau radio Flotta, en direct de l'esplanade du J4 à Marseille, face au Mucem. Ce plateau sera diffusé en direct jusqu'à 19h sur Radio Galère 88.4 FM et vous pourrez par la suite le réécouter sur radiogalère.org.
Bonjour à tous et à toutes. Pour poursuivre cette mobilisation et avant de débuter les échanges, il nous semblait intéressant de revenir sur l'origine du mouvement Flotta qui nous réunit tous et toutes ici aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la Méditerranée centrale est devenue la réalité d'une frontière meurtrière, symbole de la violence des politiques migratoires européennes. C'est un espace au sein duquel la répression des États ne cesse d'augmenter envers les personnes exilées et où le moindre geste de solidarité est réprimé. Il y a quelques semaines, les milices libyennes, par ailleurs financées par l'Union européenne, ont tiré sur un bateau de sauvetage. Les navires de recherche et de sauvetage subissent détention après détention. Parallèlement à toutes ces actions, le nombre de naufrages, le nombre de personnes qui tentent de traverser cette mer pour rejoindre des pays qui ont par ailleurs colonisé, pillé les leurs, ne diminue pas. La normalisation de ces situations ces dernières années est effrayante et ne fait qu'augmenter. Les faibles discours à portée humanitaire ne mènent pas à visibiliser l'origine politique du problème. Face à ces réalités, plusieurs collectifs ont décidé de joindre leurs forces au sein du mouvement Flotta pour dire stop à ces violences d'État aux frontières et montrer collectivement qu'un autre fonctionnement est possible pour le respect de la vie de chacun chacune, pour la liberté de circulation et la liberté de choisir. Les collectifs et groupes ayant rejoint le mouvement portent tous des mots d'ordre, des campagnes, des demandes très concrètes afin de porter le narratif que nous demandons. Au sein de ces campagnes, il y a par exemple la fin des accords entre la Libye et l'Italie, la suppression des centres de rétention, ou encore la nécessité de s'organiser face à la montée de l'extrême droite. Je ne vais pas toutes les citer maintenant, mais nous aurons l'occasion d'en reparler au cours des prochains échanges. Ce sont des demandes qui ont été transportées jusqu'au centre de la mer Méditerranée par les bateaux constituant la flotte de Flotta il y a quelques jours. C'est avec ce narratif que Flotta a décidé d'occuper la mer Méditerranée centrale, ainsi que d'autres espaces à terre et en mer comme aujourd'hui. Car les conséquences violentes des politiques migratoires sont visibles à chaque frontière. Mais pas que, dans chaque espace contrôlé par un gouvernement raciste et autoritaire. Il est nécessaire de s'organiser partout contre ces fonctionnements. Des actions ont eu lieu à Berlin, à Rome, à Brest, et demain encore auront lieu à Calais. Il y a 10 ans, le 4 septembre, avait lieu la Marche de l'Espoir. Des milliers de personnes en déplacement bloquées par le gouvernement hongrois ont marché vers la frontière autrichienne dans le cadre d'une action auto-organisée afin de demander l'asile en Allemagne et en Autriche. Ce moment a déclenché une vaste vague de solidarité. Cette marche de l'espoir nous enseigne que lorsque nous nous unissons, aucun système arbitraire ne peut nous arrêter. C'est ce que Flotta souhaite représenter. Nous nous unissons contre des contextes discriminants et inhumains, avec la volonté de les faire tomber. Parce que certains anniversaires ne devraient pas être oubliés, je vous propose maintenant de poursuivre la journée en ouvrant le premier plateau radio et la suite des discussions en hommage à toutes les personnes qui ont subi et ou continuent de subir les conséquences violentes de ce système raciste aux frontières et à toutes celles et ceux qui luttent.
Et donc bienvenue sur ce premier plateau qui sera face à l'externalisation des frontières européennes, partir pour arriver en Méditerranée. Je suis Coco et je vais co-animer cette partie avec Mathilde.
Bonjour. Si Flotta revendique la liberté de circulation pour toutes et tous, c'est justement parce qu'aujourd'hui, dans le monde, toutes les personnes ne circulent pas pareil. Avec le bon passeport, un passeport français par exemple, vous pouvez aller à peu près partout. Prendre des ferries, des avions, faire des croisières en Méditerranée. Alors que beaucoup d'autres personnes dans le sud global n'ont pas ce privilège. Elles ne peuvent pas voyager comme elles le souhaitent, doivent demander des visas qui ne sont que très rarement accordés après des démarches longues et hors de prix. Et même le vocabulaire est différent. Une Française qui s'installe au Sénégal est appelée expatriée. Une Sénégalaise qui s'installe en France sera une immigrée. Ce système des visas est une poursuite directe de la politique coloniale de la France et des pays européens. Aujourd'hui, cette politique prend aussi une autre forme. L'Europe veut empêcher certaines personnes d'entrer sur ce qu'elle définit comme son territoire. Et pour ça, elle fait tout pour qu'elles n'arrivent pas même jusqu'à ses frontières. Empêcher ces personnes d'arriver, c'est donc déjà essayer de les empêcher de partir, les empêcher de prendre ou de continuer leur route alors qu'elles sont encore bien loin de l'Europe. Pour ça, l'Union européenne délègue cette responsabilité à des États du Sud à coups d'accords et de millions d'euros versés. Elle leur confie la tâche d'empêcher les gens de voyager par tous les moyens. C'est ce qui se passe par exemple en ce moment en Mauritanie. L'année dernière, l'Union européenne a versé 210 millions d'euros à l'État autoritaire dans ce but. Depuis, les personnes étrangères sont raflées, violentées, enfermées hors de tout cadre légal et déportées dans le désert aux frontières du pays. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des frontières européennes et ce dont on va parler pendant ce premier plateau.
Et avec nous, justement, sur ce premier plateau, on a Salah Hadin, du Refugee in Libya. Welcome, Salah Hadin. Thank you for being here with us. Et on a aussi Hassan de l'association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable, ASMV. Et on entendra aussi Jihad, qui est un activiste tunisien pour les droits humains, qui fait partie d'AlarmPhone et du projet Louise Michel. Vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, mais on a quelques enregistrements de lui et il nous répondra un peu sur la situation en Tunisie.
Dans les heures qui viennent, on va beaucoup parler de la région de la Méditerranée centrale, notamment parce que c'est là que s'est déroulée l'action de Flota. Mais on se rappelle bien que ce n'est pas la seule route empruntée par les personnes en mouvement pour traverser jusqu'en Europe. La Tunisie, comme la Libye et le Maroc, sont des zones de départ pour les traversées. Beaucoup de personnes y attendent la possibilité d'un embarquement, d'un passage. Mais pour la plupart des personnes sur place, ce n'est pas le début du voyage. On a demandé à Jihad quelle était la situation pour les personnes en mouvement en ce moment en Tunisie, notamment dans les zones d'attente, et de nous décrire les routes par lesquelles ces personnes sont arrivées.
La situation a changé les derniers mois, parce qu'avant c'était des camps de concentration, ils concentrent les gens des camps au niveau des parcelles des olives, et là on avait des camps qui se forment genre 20 000 personnes, 15 000 personnes, et c'était des grands camps. Et c'était juste à côté, genre, il y a 5-10 kilomètres des points de départ, des plages de départ. Maintenant, l'État tunisien a changé, au lieu de concentrer les gens dans des grands camps, ils les font concentrer dans des petits camps et ils les poussent à aller dans les grandes villes. Et les conditions de vie sont très difficiles parce que, imaginez, ce ne sont même pas des tentes, ce sont des constructions en plastique dans des zones d'oliviers, et ils n'ont pas accès à la ville, donc tout est limité. Et là, tu n'as pas d'eau, t'as pas, genre, les besoins plus basiques, ils n'ont pas accès à ça. C'est un climat de tension avec des besoins spécifiques, basiques, qu'on ne peut pas même accéder à l'eau, qu'on ne peut pas faire des douches, qu'on ne peut pas... Que même la zone là-bas, ils ont beaucoup de ruptures d'eau. Donc même, il y a un problème d'eau pour la zone pour les gens dans locaux. Et ça s'est aggravé aussi avec la situation aussi de la communauté subsaharienne qui sont là-bas. Alors, pour arriver en Tunisie, il y a soi-disant, la route Algérie. Pratiquement, il commence de Côte d'Ivoire, où il y a, genre, Côte d'Ivoire, il y a Guinée, il y a qui font cette route faire la Tunisie. L'année dernière, il y avait beaucoup de gens. Cette année, on voit moins de gens qui arrivent parce que aussi l'Algérie a bloqué beaucoup cette route. Mais les gens continuent de passer. Il y a encore des arrivées. Et ce n'est pas le même rythme de l'année dernière, mais il y a encore.
On reviendra sur la situation en Tunisie plus tard. Là, on va parler de la situation en Libye avec Salah Hadin. Il y a quelques années, les chiffres qui circulaient, c'était que 500 000 personnes étaient bloquées en Libye en attente de traverser. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu peux nous décrire les routes par lesquelles ces personnes sont arrivées et quelle est la situation actuellement pour les personnes en mouvement en Libye ?
Ok, so first of all, I'm happy to be with you, and I would like to introduce myself. Firstly, I'm Salah Hadin. Originally, I'm from Sudan, and I am a human rights defender,
and
a member and co-founder of
Refugees in Libya organization.
So I'm speaking to you,
donc je vous parle
personally as a
personnellement en tant que personne survivante qui a habité en Libye pendant 3 ans. Et pendant ces années, j'ai passé 1 an et demi en prison. Et le temps que j'ai passé à l'intérieur de la prison, j'ai vraiment fait l'expérience du travail forcé, etc. Et j'aimerais vraiment me focusser sur l'externalisation des frontières.
Donc,
le soutien de l'Union européenne vers les milices libyennes, c'est vraiment un très très grand problème qui est en train de causer de la torture et beaucoup de souffrance pour les personnes migrantes et pour les réfugiés en Libye. Donc, à chaque fois quand ils essayent de traverser la mer, il y a des pushbacks, des refoulements. Et ils sont détenus dans des centres de détention et dans des prisons. Et quand on pose la question d'où viennent ces personnes migrantes et ces réfugiés, ils viennent de différents pays, de pays africains et certains de pays asiatiques, etc. Donc, ils passent du temps, et certains passent des mois ou alors des années, et puis ils essayent de traverser la mer pour essayer d'échapper aux violations de leurs droits qui ont lieu en Libye. Mais malheureusement, à chaque fois, ils sont refoulés et ils sont détenus dans les centres de détention et ils continuent de souffrir dans ces endroits.
Merci. Tu as évoqué les centres de détention dans lesquels les gens étaient enfermés quand ils étaient interceptés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qui arrive concrètement à ces personnes ?
Comme je l'ai dit au début, moi je suis aussi l'une des personnes qui a passé 1 an et demi dans les centres de détention. Donc, le monde extérieur ne sait pas quelle est la réalité à l'intérieur d'un centre de détention. Donc, les centres de détention sont contrôlés par les milices. Et ces milices ont le soutien de l'Union européenne et sont formés par eux. Ils construisent des cellules à l'intérieur de ces centres et ils utilisent les migrants comme travailleurs. Ils les utilisent comme des esclaves, je peux utiliser ce mot, et ils ne leur donnent pas assez de nourriture. Parfois, ils les vendent pour faire du profit eux-mêmes, personnellement, et les femmes sont exposées au viol, etc. Et donc, vraiment, il y a des choses vraiment très, très difficiles qui se passent au sein des centres de détention dont le monde extérieur n'a pas conscience. Et à chaque fois que ces personnes essayent de parler et d'envoyer leur message vers l'extérieur du monde, ces efforts-là sont bloqués et ils ne peuvent pas faire passer leurs paroles ou leurs messages vers le monde extérieur.
Et malgré tout, il y a des personnes qui arrivent dans ces conditions à s'organiser, à essayer de lutter contre la situation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né Refugees in Libya et les combats que vous avez menés ?
Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, au sujet de l'association Refugees in Libya, en fait, c'est un mouvement auto-organisé qui est né en octobre 2021 à Tripoli, après la grande descente qu'ont fait les autorités libyennes à Tripoli contre les réfugiés et les migrants. Ils ont arrêté des milliers de migrants et les ont mis en centre de détention. Et donc, pour nous, on a essayé d'échapper à cette descente et on s'est rassemblés devant les locaux de l'UNHCR à Tripoli et on a décidé de s'assembler pour essayer de faire des manifestations pacifiques et demander nos droits et que nos droits soient reconnu. Et donc, à partir de là, on a commencé ce collectif Refugees in Libya et on a continué à protester pendant 3 mois. Et enfin, on a été attaqué encore dans ce lieu et on a été emmené en prison. Et certains d'entre nous qui ont réussi à s'échapper, qui sont arrivés en Europe et ont réussi à commencer à parler, à faire sortir cette voix et amplifier les voix et de faire du plaidoyer pour cette cause. Et il y a d'autres personnes ensuite qui ont été relâchées et qui ont réussi à faire le voyage jusqu'en Europe aussi. Ça, c'était l'année dernière, en juillet 2024, que Refugees in Libya a été officiellement enregistré comme une association.
En ce moment, vous portez une grande campagne contre le mémorandum Italie-Libye. Tu as parlé tout à l'heure de l'externalisation des frontières européennes en Libye. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste ce mémorandum et nous présenter votre campagne ?
Donc, le Memorandum of Understanding a été signé entre l'Italie et la Libye en 2017. Donc, ça, c'était vraiment l'élément principal qui a causé la mort et la souffrance des personnes migrantes et des réfugiés en Libye et dans la Méditerranée centrale. Donc, l'Union européenne a été en soutien des autorités libyennes par voie financière et par la formation des milices pour pouvoir maintenir et garder les migrants là-bas et ne pas leur permettre d'atteindre l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que Refugees in Libya a lancé cette campagne contre ce mémorandum. C'était en juin 2025. Pendant lors de la Journée internationale des réfugiés, dans une conférence de presse. Il y a eu énormément d'activités qui ont été organisées et qui seront organisées dans différents pays européens. Et l'événement le plus important qui va être organisé à Rome en octobre du 16 au 18. Il y aura une grande manif dans le centre de la ville de Rome et on invite tout le monde à venir nous rejoindre et à dire non à ce mémorandum qui a causé énormément de souffrance et de mort de milliers de migrants et de personnes réfugiées en Libye et dans la Méditerranée centrale.
Il y a aussi une action à Gênes la semaine dernière, si je ne me trompe pas, et vous avez sorti le Book of Shame contre l'UNHCR. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, donc la semaine dernière, il y avait une campagne que Refugees in Libya et d'autres associations qui collaborent avec eux ont fait. C'était à Genève, c'était le Unfair Campaign. Et cette campagne était en lien avec ce livre, le livre de la honte, qui a été publié. Et c'est un livre qui contient énormément de témoignages et de plaintes de la part de personnes réfugiées du Libye, du Niger, de Tunisie, qui ont fait l'expérience du manque de soins de l'UNHCR. Donc l'UNHCR n'a pas réussi à protéger ces personnes comme elle est censée le faire au Niger, en Tunisie. C'est pour ça qu'on a des témoignages de ces endroits-là et on a créé ce livre qui s'appelle « Le livre de la honte » qui rassemble ces témoignages.
Comment est-ce qu'on peut soutenir la campagne contre le mémorandum, à part en allant à la manifestation à Rome ?
Pour ceux qui peuvent être présents physiquement à Rome, on serait très heureux de les voir là-bas. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement, on leur demande de faire passer ce message dans le monde entier pour que des personnes qui peuvent être présentes puissent venir.
Merci Salah Adine. On va revenir à la situation en Tunisie. Jihen nous a expliqué comment se traduit cette externalisation des frontières européennes en Tunisie et quelles étaient les conséquences pour les personnes en mouvement.
En Tunisie, on a un exemple très simple. Pratiquement, on reçoit beaucoup d'équipements. On reçoit beaucoup de gens, beaucoup d'équipements. On reçoit de trainings, entraînements pour la garde côte, la garde nationale et aussi des bateaux d'interception. Genre, comment la garde nationale tunisienne est équipée ? Elle est équipée pour être interceptée. Par contre, quand il y a des moments où on avait des personnes disparues ou on a demandé aux autorités tunisiennes de faire des missions, soi-disant, de search and rescue, de sauvetage et recherche, ils n'avaient pas les moyens. Parce que la façon comment les bateaux sont équipés à être vite, rapides, à faire des manœuvres difficiles qui peuvent créer des situations dangereuses pour les bateaux, qui parfois, les manœuvres, ils ont renversé des bateaux. Et du coup, ça, c'est le premier aspect, recevoir l'argent, recevoir l'équipement. On reçoit beaucoup de des experts, genre des experts de l'Allemagne, de l'Autriche. Même l'Autriche nous donne aussi un système de surveillance avec des drones qu'on n'avait pas. Donc on a beaucoup de drones. On reçoit aussi de l'Angleterre un système de capter aussi les téléphones au niveau de la mer. Donc tout cet asset de surveillance, de technologie, ça, on le reçoit par l'Union européenne. Aussi, l'externalisation a touché les nouveaux sociaux et les nouveaux médiatiques. Par exemple, avant, les années jusqu'à, je pense, 2022-2023, on utilise beaucoup en Tunisie le mot harag. Le mot harag, c'est une personne, pour moi, c'est une expression trop politiquement correcte, genre les personnes qui brûlent la frontière. Maintenant, c'est un nom, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Parce que maintenant, on n'utilise que les personnes irrégulières. Et ça, maintenant, même les personnes, genre dans les médias, mais même dans le discours de notre président aussi, on perd de personnes irrégulières. Cette expression n'a-t-elle jamais existé? Et donc, même l'externalisation a touché le vocabulaire qu'on utilise dans les médias tunisiens. C'est un peu bizarre de l'expliquer, c'est un peu difficile, mais il y a cette sensation qu'on n'avait pas avant. Parce que 2011, par exemple, quand on a reçu beaucoup de réfugiés, de personnes au mouvement de la Libye, on avait des camps, genre en Tunisie, on avait 1 million de personnes. Toute la population a aidé. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient aider, beaucoup de gens qui étaient actifs dans les camps de réfugiés, il y avait beaucoup de volontaires. Et cette dynamique de solidarité, maintenant, elle est complètement tuée. Donc il y avait genre un pays qui est mobilisé à aider les réfugiés. Et ça, maintenant, on n'a pas. Donc même moi, je pense que cette externalisation a aussi touché le niveau social ou sur le côté social de la société tunisienne, qui maintenant, on a l'autre, parce qu'on est bombardé aussi, la média, l'autre, tout ce qui est, il n'y a pas d'eau, c'est le subsaharien, il n'y a pas de sucre, c'est le subsaharien, il n'y a pas de café, il faut maintenant à Tunis aller à 7h le matin pour trouver une baguette. Et ça, ce n'est pas parce qu'il y a le subsaharien, parce que l'État tunisien est endetté, mais au lieu de dire que c'est ça le problème, la narrative nationale du gouvernement, c'est à cause du subsaharien. Ces narrations-là, je pense aussi, c'est trop lié à l'externalisation qui ne s'arrête pas à donner des équipements ou des bateaux d'interception ou des drones de surveillance ou un système de surveillance ou une coopération avec Frontex que la Tunisie dise non, mais aussi, elle se manifeste aussi dans d'autres aspects.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'accord du mémorandum entre l'Italie et la Tunisie?
Pratiquement, c'est un accord qu'on va recevoir 150 millions d'euros. Et pratiquement, il y a 5 niveaux dans cet accord. La première, c'est concernant l'immigration. Et sans la Tunisie, on va recevoir beaucoup d'aide, équipement, 3 bateaux, je ne sais pas, 5 bateaux. Et qu'on va prendre aussi, ils vont faciliter genre 6 000 contrats de travail, qui après 2 années, je pense, il y avait une grande arnaque parce que ce n'était pas vrai. Et d'autres parties de l'accord, on ne le sait pas. Et ça aussi, quelque chose qui est un grand point d'interrogation sur ça, sur ce mémorandum. On n'a pas accès à l'information. Il y a beaucoup de choses qui sont signées. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont signé. Le point focal, c'est qu'on va avoir des contrats de travail. C'est quelque chose, ou faciliter les contrats de travail en Italie, en Union européenne. Et particulièrement, ça sera la main-d'œuvre dans l'agriculture. Et là, c'est un grand sujet d'arnaque parce que beaucoup de Tunisiens qui ont suivi ça, ils ont arrivé à Rome. Après à Rome, ils ont dit que les contrats de travail que vous avez ne sont pas vérifiés ou quelque chose. Donc, ils étaient expulsés vers la Tunisie. Donc, et l'autre, c'est concernant 105 millions d'euros pour des équipements pour interception en mer. On a aussi reçu beaucoup de bus. Et l'autre aspect aussi, c'est les drones. Et la formation. Formation, quand c'est touche toujours des formations, mais généralement, ils n'expliquent pas c'est quoi comme genre de formation, mais il y a beaucoup de preuves qu'ils font des formations pour comment intercepter, ou comment être plus efficace, comment coordonner avec les autorités européennes l'interception de façon plus efficace. Alors, les personnes qui sont interceptées, généralement, par exemple, on parle de modèle Sfax. Si tu es intercepté à Sfax, genre vers Sfax, les gens avant, genre 2022, les gens, ils étaient laissés. Genre, ils arrivent au port, ils les laissent, ils les libèrent. Maintenant, depuis un moment, ce qu'on voit, c'est soit tu prends le bus pour aller vers la Libye. Genre, là, il y a aussi beaucoup de preuves qui montrent que les gens étaient vendus. Genre, il y avait des preuves que les gens étaient vendus de la garde côte. Bon, pas toute la garde côte, mais il y a des cas que des gens étaient vendus par la garde côte tunisienne à des la garde côte libyenne. Bon, trafiquants libyens. Et du coup, le premier scénario, c'est de sera où les gens seront et ils sont expulsés vers le désert. Pratiquement, ils arrivent à un niveau, ils laissent les gens, ils les dégagent. Genre, les bus vont au désert et bougent les, et disent aux gens d'aller vers la Libye. L'autre scénario, genre, ça c'est le premier bus. Deuxième bus, quand c'est rempli, ils vont vers la frontière tuniso-algérienne. Et là aussi, les gens sont expulsés dans cette côté, qui généralement ce sont des montagnes là-bas. Donc là-bas, les gens, et l'accès à ces gens-là, c'est un peu difficile. Et troisième scénario, c'est après, genre, le troisième bus, il va à Jbiniana, à la Hamra, au camp des Olives.
Et une dernière intervention de Djihad pour savoir si malgré tout, il reste de la solidarité et comment elle s'organise.
Qu'on vit maintenant, on peut dire que la solidarité existe encore mais en Tunisie, mais elle a changé de forme. Elle n'est plus seulement celle des grandes ONG visibles sur les affiches, mais aussi dans beaucoup de gestes discrets, dans un système aussi qu'on appelle les communautés de citoyens. C'est que des citoyens qui s'organisent indépendamment, ça dépend de la besoin de la région. Genre, par exemple, la frontière algéro-tunisienne, il y a la montagne, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder. On ne peut pas accéder là-bas, et là, il y a beaucoup d'expulsions. Et là, on a des communautés de citoyens qui essaient d'aider, genre, pour les gens qui sont expulsés là-bas, genre, de les faire même les premiers services, ramener de l'eau, parce qu'elles connaissent bien ces zones-là. On a de même à côté de Sfax, dans la communauté de citoyens qui a organisé l'eau, par exemple, qui, durant cet été, on a un été chaud avec beaucoup, beaucoup de coupures d'eau, même dans pratiquement cette zone-là, il y a une communauté de citoyens qui organise l'eau. On a aussi un exemple du sud de la Tunisie, quand les autorités tunisiennes commençaient des expulsions vers le désert tuniso-libyen. Il y a une initiative basée des gens qui connaissent le désert et qui ont lancé des missions de recherche et sauvetage des personnes expulsées. Ils utilisaient les motos, ils essaient de localiser les gens et de les ramener à la ville. Et il y avait aussi une coopération avec l'hôpital local, donc qui acceptait les gens qui étaient ramenés par communauté de soutien aux personnes expulsées au désert en Tunisie. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. On a un bon exemple aussi des organisations qui maintenant fait beaucoup de documentation. Et comme l'F2S, il fait beaucoup de documentation sur les interceptions et le poste d'interception. Il y a aussi d'autres réseaux qui essaient de faire ce qu'on appelle le SIR, genre Safe Identification and Referral, genre identifier et référer vers les bons services de l'État. Donc, ils essaient de filtrer les besoins de la communauté migrante subsaharienne et la donner, aux services spécifiques de l'État tunisien. Et c'est un peu contradictoire parce que il y a l'État qui expulse, mais il y a aussi des services qui essaient de coopérer. Et là aussi, c'est je vois qu'il y a beaucoup de solidarité là-bas en ce système d'identifier et référer vers les bons services.
On est toujours en direct sur Radio Galère 88.4 depuis le J4 à Marseille en cette journée de soutien à l'initiative Flota. On se fait une micro-pause avec une chanson choisie par Hassan qu'on retrouve juste après pour la suite du plateau. Restez avec nous.
Thank you. Flota en Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans condition.
Et on revient sur le plateau de Flota, en direction de Radio Galère 88.4. Et maintenant, c'est avec Hassan qu'on va discuter un petit peu.
Bonjour Hassan, merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient de parler de solidarité sur les zones de départ en Tunisie et en Libye. Est-ce que toi, tu peux nous présenter ton association au Maroc et ses actions auprès des personnes en mouvement ?
Bon, bonsoir tout le monde. Je suis Hassan Amari. Je suis là avec Mohamed Dahak. Nous représentons l'association marocaine d'aide des migrants en situation vulnérable. C'est une association qui est basée à Oujda. C'est juste à côté de la frontière algéro-marocaine, 26 km. Donc c'est une association qui est née en juin 2017. Donc l'association travaille sur cinq axes. Le premier axe, c'est la lutte pour la liberté de circulation, donc pour les personnes migrantes. Sachant que Oujda, c'est une région frontalière, qu'il y a énormément de migrants de plus de 20 pays qui traversent les pays de Sahel en arrivant en Algérie, puis ils arrivent au Maroc. Donc le premier point qu'ils fréquentent au Maroc, c'est Oujda. Donc dans ce cadre, il y a des Guinéens qu'on a créés, il y a des Soudanais, des Tchadiens, des Camerounais, des Nigériens, soit francophones, soit anglophones. Donc, comme je viens de dire, ce que l'association travaille sur cinq volets. Le premier volet, c'est la lutte pour les droits des migrants et la liberté de circulation. Deuxièmement, on lutte contre la discrimination et les stéréotypes et bien sûr les préjugés contre les migrants. Troisièmement, on fait un petit peu de l'accompagnement des migrants, soit les migrants qui veulent aller au HCR, au commissariat des réfugiés, soit les gens qui vont se référer vers l'OIM, l'Organisation internationale des migrants, et bien sûr vers les structures de la santé, les structures de l'enseignement, et bien sûr on fait un travail avec d'autres personnes qui sont proches des migrants, ce sont les familles des disparus et des détenus et des morts aux frontières. Et en cinquième volet, on travaille sur la question d'information et former soit les étudiants master, les étudiants doctorants qui travaillent sur ce sujet-là, soit de l'Europe, soit de l'Asie, soit de l'Amérique latine qui vient au Maroc pour faire leurs recherches. Donc on travaille avec eux dans ce cadre. Je voulais signaler que Oujda ou le Maroc, c'est un pays de transit, c'est un pays d'accueil et c'est un pays de départ. Donc n'oublions pas que même le Maroc, il y a énormément de Marocains et même des Algériens qui traversent vers le Maroc afin d'atteindre l'Eldorado, entre guillemets l'Eldorado européen, à travers les enclaves Septa et Melilla, les enclaves marocains occupées par les Espagnols, Septa et Melilla. Donc nous faisons un petit peu la solidarité, l'assistance et l'accompagnement.
Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se matérialise l'externalisation des frontières européennes au Maroc ?
Ben, quand on parle de l'externalisation, il faut qu'on parle de trois aspects. Parce que l'externalisation des frontières, elle est liée à la militarisation. Et quand on parle de la militarisation, il faut qu'on parle de l'agence européenne de garde de Frontex. Il faut qu'on parle aussi de nos pays au sud. Quelle coopération il y en a ? Et il faut en parler de trois aspects. Il y a ce qu'on appelle l'externalisation morale, il y a l'externalisation matérielle et il y a ce qu'on appelle l'externalisation administrative. Administrative, quand on parle d'administrative, c'est la complication des visas, par exemple. Et quand on parle de matériel, c'est que maintenant, l'Europe n'est plus à la Méditerranée. Donc l'externalisation, c'est que avant on parle de l'Union européenne à la mi-Méditerranée et à la mi-Méditerranée. atlantique. Mais maintenant, il y a l'externalisation vers l'Union européenne, essaye d'aider d'autres pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Nigeria, comme l'Algérie, le Maroc, afin de jouer, il délègue cette tâche-là de contrôle de frontières à ces pays-là, soit de côté de équipement militaire, soit avec des procédures qui sont compliquées pour la circulation. Et il y a une externalisation qui vient de ceux qui étaient en Europe et maintenant qui est en train de s'exporter vers nous. C'est le discours de la discrimination, le discours de xénophobie, le discours de racisme. Ce sont des discours, par exemple, ce qu'on vit maintenant en Tunisie, comme il vient de dire notre ami de la Tunisie. Ce qui se passe, c'est vraiment catastrophique, ce qui se passe avec le président Qissi Saïd et ce qui se passe avec même des ONG maintenant qui criminalisent. Et maintenant, on peut dire que même l'externalisation, c'est criminaliser même la solidarité. Et vous avez vu, donc en France, en Belgique, la criminalisation des bateaux de sauvetage comme Sea-Watch, comme Sea-Watch 1, Sea-Watch 3, Aquarius et les autres bateaux qui sauvent. Même au Maroc maintenant, même en Algérie, même en Tunisie, les associations maintenant qui aident les migrants sont criminalisées. Sont suivies, par exemple, au Maroc, sont suivies par la loi 0203. Qui encadrent le séjour des étrangers au Maroc, sont criminalisés en Tunisie par la loi tunisienne et en Algérie par la loi 0811. Et dans ce cadre-là, comme vous voyez là, il y a énormément de gens marocains qui sont condamnés en Algérie par la loi 0811 par 10 ans et 14 ans de prison. Donc l'externalisation, ça, elle n'est plus dans le côté matériel, mais elle est dans le côté moral et dans le côté administratif.
Tu viens de parler de la criminalisation de la solidarité, mais tu as parlé aussi de militarisation de la frontière. C'est quoi les conséquences concrètes de cette externalisation, de ces accords en termes de répression pour les personnes en mouvement elles-mêmes ?
Ben, les conséquences, les voilà, vous pouvez les voir. Donc voilà les banderoles là qui présentent là énormément, c'est les échantillons là des disparus qui sont là. Les fiches qu'on a amenées en tant qu'association marocaine des droits de l'association marocaine des immigrants en situation vulnérable, il y a les disparus, il y a les gens qui sont morts. Vous avez déjà dit qu'il y en a plus de 50 000 personnes ces dernières années qui sont mortes. Voilà, ce sont des catastrophes. La catastrophe, c'est que les gens ne peuvent pas se déplacer librement. C'est injuste qu'un Européen, un Français, un Belge peut y aller au sud, à l'Afrique, sans visa, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Et nous, citoyens au sud, et ils ont besoin de visas, ils ont besoin de besoins qui sont maintenant très très compliqués. Donc voilà les conséquences. Les conséquences sont catastrophiques. Chaque jour il y a des naufrages. Chaque jour il y a des en Libye, il y a des naufrages en Libye, il y a des naufrages au Liban, il y a des naufrages au Maroc, à l'Atlantique, vers les îles Canaries. Donc chaque jour on vit des drames. On a vécu des drames le 6 février. On a vu le 6 février 2014 le drame de ouvrir le tirer sur des gens qui nagent, qui veulent atteindre l'enclave Septa à la nage et ouvrir le bal de caoutchouc sur des gens. Il y a le naufrage, les naufrages qui arrivent chaque jour à côté de Lampedusa, au Libye. Donc il y a des naufrages des Palestiniens au Liban, des naufrages des Marocains, des Algériens, du Subsaharien, à l'Atlantique et à la Méditerranée. Donc on est devant une situation qui est chaotique, qui est catastrophique avec ces politiques-là, qui est menée par l'Union européenne et malheureusement qui sont soutenues par nos pays du Sud.
Encore une fois, pour revenir sur la criminalisation de la solidarité dont tu parlais, vous, votre association, vous arrivez encore à la mener ?
Ben, on se bat. Donc, il n'est pas donné par l'État, mais on s'est battu depuis... moi, je me souviens depuis 27 ans que je suis dans ce domaine-là. J'ai lutté dans l'Association marocaine des droits de l'homme. J'étais avec MSF, Médecins sans frontières, avec Médecins du Monde, avec le Caritas. Donc, c'est pas une chose qu'on va attendre que l'État va nous dénommer. Il faut se battre. C'est pour cela qu'on demande à la société civile au niveau de l'Europe qu'il soutienne nos actions. Nous nous sommes dans le premier rang, mais bien sûr, il faut lutter. On a des répressions, on ne va pas nier qu'on a des répressions par nos États, soit au Maroc, soit en Algérie. Maintenant, l'Algérie, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'associations qui peuvent agir. La Ligue algérienne, maintenant, il est dissolu par l'État. Même nous, au Maroc, maintenant, la solidarité, donc, il y a des gens qui sont poursuivis par la loi 0203. Donc, nous travaillons dans des conditions très difficile, mais il faut lutter. On est dans le champ de la lutte pour lutter pour la liberté de circulation et pour, s'ils criminalisent la solidarité, nous, il faut qu'on, bien sûr, externaliser la solidarité.
Merci Hassan. Tu disais que l'externalisation des frontières a des conséquences directes pour les personnes qui voyagent et sur les routes qu'elles empruntent. Il y a des routes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Et souvent, celles qui s'ouvrent sont toujours plus longues et toujours plus dangereuses. Mais malgré tout, les gens continuent et continueront à se déplacer et à voyager. C'est juste qu'elles prennent plus de risques. Et partout, comme vous le racontez, la solidarité s'organise. Côté désert, par exemple, on peut aussi parler de l'action d'Alarm Fund Sahara. Les traversées du Sahara sont moins connues que celles de la Méditerranée. Et pourtant, on estime que ces 10 dernières années, il y a bien plus de personnes qui ont disparu dans le désert que dans la mer. Et les mortes y sont juste encore plus invisibles. Face à ça, Alarm Fund Sahara a mis en place un numéro que les personnes en difficulté peuvent appeler. Et ont dispatché tout un réseau de sentinelles qui restent à l'affût des alertes. Et elles font aussi de leur mieux pour assister les milliers de personnes refoulées d'Algérie, de Tunisie et abandonnées dans le désert. Si vous voulez en savoir plus sur leurs actions, je vous invite à vous rendre sur leur site internet.
Donc, pour clarifier la question, j'étais parmi les fondateurs de APS, Alarm Fund Sahara. C'était créé en Burkina Faso, à Ouaga. Donc, il y a des gens qui meurent loin des caméras. Il y a des gens qui meurent au Sahara, au sud de l'Algérie, au nord du Niger, au nord du Mali. Vraiment, c'est une situation chaotique qu'on demande aux médias européens, aux acteurs européens, aux activistes européens, afin de mettre en lumière cette question-là, parce que vraiment, la situation est très chaotique au niveau de Sahara. Et bravo le travail qu'il fait Alarm Fund Sahara.
Merci à vous. Et c'est la fin du premier plateau. Merci encore aux invités qui étaient présents et puis celui à distance. Merci de nous avoir écoutés ici au J4. On se fait une petite pause d'une dizaine de minutes avec des chansons choisies par Salah Adin et Jihad. On vous retrouve sur le second plateau dans une dizaine de minutes. Ça parlera de la traversée en Méditerranée.
أصحابي جنبو باليد الأخواني ومروكو دل أحبابي يعني كلامنا كله سوداني في الهجرة لازم تعاني تدق الجانس ترجع تاني اسكادر ناس اليوم ربي يرحم المرحوم طلع في ملوك مات اليوم أخواني في السجون بتمنى طلوع اليوم بفضل رب الكون والحجة شايل هموم 200 توصل يجيها النوم والحجة شايل هموم 200 توصل يجيها النوم دايم وفجر داخويا في لندن دا خويا ديب وفجر دا خويا الليلة في لندن دا خويا ديب وفجر دا خويا الليلة في لندن دا خويا
Tarifa. السما مقهور والبشر ليش عالظلم ما بيثور ملاك ليش بالسما مقهور والبشر ليش عالظلم ما بيثور والطفل مش مسموح والكاس كله دموع علي الراية فوق فلسطينة علي الراية فوق فلسطينة فلسطينة لا 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 لا
Sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
ya no reviendré pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá,
un día o jamás.
Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá,
cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendré pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no me atrapas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá.
Méditerranée.
Occuper la mer contre les frontières.
Ouvrir des brèches
contre l'Europe forteresse.
Pour la liberté de circulation de toutes et tous, sans condition.